1, 2, 3.
Good evening, France Culture.
Bonsoir, good evening. I'm Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, je suis Lerbant.
Je m'appelle Grail Marcus.
Et ce soir, dans Ping Pong, ils nous apprennent l'Amérique d'aujourd'hui en regardant au passé.
Ping Pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Edith.
La culture sert à tout, même à faire parler la poudre. Dans une journée spéciale consacrée à l'Amérique d'aujourd'hui, comment ne pas mentionner un pan singulier de sa culture, celui qu'on nomme gun culture, la culture des flingues, et ce d'autant que le deuxième amendement et les nombreux meurtres par arme à feu nourrissent le débat entre candidats à la présidence, Trump étant notamment, rappelons-le, favorable à des profs armés dans les écoles pour répliquer en cas de fusillade. Mais attention, employer l'expression gun culture, c'est placer cette question sur le plan non pas social, économique ou psychopathologique, mais plus fondamentalement sur le plan de l'anthropologie et de l'imaginaire. Aussi, entre deux séries au blockbuster pétaradant, vous invitais-je à découvrir ou redécouvrir le détonnant essai de Denis Duclos, Le complexe du loup-garou. Duclos y soutient l'idée qu'il existe, dans la culture états-unienne, une consanguinité secrète et nécessaire, voire vitale, entre l'idéal d'une société parfaite et policée et la présence de la plus extrême sauvagerie. Et l'auteur de prendre pour pivot la fascination qu'exerce toujours la figure mythique, héritée des légendes nordiques, du guerrier fou, le berserk, ce guerrier fauve qui se déchaîne et fait finalement de l'humanité son gibier. Voyez l'American Psycho de Bret Easton Ellis ou Michael Douglas dans le film Chute libre et écoutez donc le rappeur Eminem. Laisse pousser ta barbe, lâche le manche et deviens berserk, chante Eminem. Mais trêve de confiserie, puisque le nombre de guns en circulation aux États-Unis, 300 millions, n'est pas près de baisser, et puisque les guerriers fous sont désormais aussi parmi nous en France, il est bien temps de se calfeutrer pour lire l'essai de Denis Duclos, Le complexe du loup-garou, la fascination de la violence dans la culture américaine, publié à la découverte. Laird Hunt. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette figure du berserk, ce guerrier fou qui devient fou et qui finit par égorger sa propre famille. Est-ce que l'héroïne de votre roman Never Home, pour lequel vous êtes invité dans le cadre du Festival America à Vincennes jusqu'à dimanche, a quelque chose de ce guerrier fou, de ce guerrier fauve ?
Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup de rapports avec ces figures de berserk que je connais assez bien parce que moi, j'ai des ancêtres qui viennent des pays nord de l'Europe. Mais c'est vrai qu'à la fin de ce livre, cette femme, la protagoniste Ash Thompson, va déclencher quelque chose en elle qui est assez puissante, disons.
Grail Marcus, il y a une citation qui est intéressante à reprendre et à réutiliser à l'envi, je vous la conseille, dans ce livre « L'histoire du rock en 10 chansons » chez Galad Éditions. Elle vient de Peter Townshend des Who. Et on dit donc « Prenez toute la musique pop, mettez-la dans une cartouche, fermez la douille et tirez un coup de feu. Peu importe que ces 10 ou 15 chansons sonnent à peu près pareil, peu importe la date où elles ont été écrites ou ce qu'elles racontent, ce qui compte, c'est la putain d'explosion qu'elles créent quand vous faites partir le coup. Là est l'événement, c'est ça, le rock'n'roll. Pour vous, le rock'n'roll, c'est ça aussi une affaire de guerre, une affaire de fusil ?
Well, after listening to Laird, I think
après,
of something.
Avoir écouté la réponse de Laird,
Philip Roth,
me vient à l'esprit Philip Roth, pastoral américain. Il dit qu'il y a deux pôles dans la vie américaine. Il y a la pastorale américaine, le rêve de paix, de quiétude, de vie, de famille, d'intimité. On crée son propre univers. Et puis il y a aussi le berserk américain. Tout cela se délite et un acte de violence détruit tout ce qui est intimité, individualité, et tout cela provoque la convergence entre l'individu et ses motivations et avec une histoire qui devient totalement insaisissable.
Mais le rock and roll dans tout ça.
Il est à l'intersection justement le rock.
I don't want to stretch or be contrived.
Je ne veux pas que ce soit trop tiré par les chevaux, mais par les cheveux, pardon. Mais le rock'n'roll, c'est une forme de musique qui fait se rejoindre les extrêmes et qui met en valeur les émotions les plus extrêmes et qui pousse les artistes à puiser au fond d'eux-mêmes pour y trouver des craintes et des désirs qu'on ne trouverait dans aucune autre forme. Le rock'n'roll donne une voix aux émotions les plus extrêmes, mais en fait les élicite.
How do you write the story of this modern world?
La culture sans limite.
Nous allons maintenant nous plonger dans une des séquences aller-retour que propose votre livre, donc l'histoire du rock en 10 chansons, Grêle Marcus, parce que vous aimez relire une chanson à travers la version, la reprise qui va ensuite lui succéder. Vous y trouvez une dramaturgie particulière et dans ce livre, vous nous dites aussi beaucoup de choses de l'Amérique en faisant ces allers-retours. On va s'intéresser à une séquence qui est un intermède musical de votre livre et qui fait un voyage entre Robert Johnson et Barack Obama. On peut dire que 80 ans séparent ces deux versions, les années 30 de Robert Johnson, les années 2010 de Barack Obama. On est en 2012 avec les Buddy Guy Ensemble. Il va donc chanter ce Sweet Home Chicago. C'est juste avant Mick Jagger qui lui a passé le micro, Grêle Marcus. Comment est-ce que vous regardez-vous cette reprise de Barack Obama et qu'est-ce qu'elle dit de l'Amérique en 80 ans, d'une certaine manière?
Your perception of Barack Obama's cover and what it says about America over a period of 80 years.
Well, here we have a song Robert Johnson recorded.
S'agit d'un morceau enregistré par Robert Johnson en 36 ou 37, chanté par le président des États-Unis en 2012. Vous l'avez dit. Mon livre porte sur différentes choses, mais il s'agit de chansons, au pluriel avant tout, et la façon dont les chansons ont leur propre corps et leur propre esprit, comme si la chanson elle-même était un être conscient ayant des motivations. Et il s'agit également de savoir comment les chansons traversent le temps et l'espace, et la façon dont les chansons recherchent leur propre artiste, la façon dont les chansons recherchent quelqu'un pour les incarner. Il n'est pas du tout ironique qu'une chanson écrite par un chanteur de blues du Mississippi soit reprise 80 ans plus tard par le président des États-Unis. Il n'y a pas d'ironie là-dedans, parce que c'est l'histoire même des États-Unis que l'on retrouve dans le voyage spatio-temporel de ce morceau. Le point de départ étant une chambre d'hôtel du Texas, là où ça a été enregistré pour la première fois, jusqu'à la Maison Blanche. Et dans mon livre, donc, je traite de tout cela. Robert Johnson est mort en 1938 et moi, j'ai essayé d'imaginer sa vie s'il n'avait pas décédé en 38. Et je me suis dit qu'il pourrait devenir producteur de musique. Ainsi, on pourrait suivre toute l'histoire du rock'n'roll en s'intéressant aux disques produits par Robert Johnson. On démarrait en 1950 avec Ricky Nelson, on passerait aux Doors et de nombreux autres artistes. Et sa toute dernière production, ce serait Straight Out of Compton, le dernier album de N.W.A. Et tout cela s'inscrit dans le cadre des faits historiques qu'aurait vécu Robert Johnson. Parce que l'homme qui lui a enseigné la guitare, un sombre chanteur du blues de l'Alabama, qui lui a enseigné donc la guitare dans le Mississippi en 33 ou 34, et ensuite devenu un homme d'église. Et j'imagine Robert Johnson dans les années 50 à Los Angeles qui se retrouve avec son vieux prof de guitare. Et il rejoint l'église, non pas par poussé par la foi, mais pour rejoindre une congrégation. Et les parents de Ice Cube, de Dr. Dre et Dizzy auraient été là. Et lorsqu'ils s'aperçoivent, eux, que ce vieux type était un type de maison de disques, producteur de musique et ainsi de suite, et que tout remonte aux années 30, et ils se sont dit, ben, c'est ce type-là qu'il nous faut. Donc il finit par produire le fameux Straight Out of Compton. Par conséquent, on peut décrire l'histoire du rock'n'roll, forme artistique américaine et qui raconte l'histoire des États-Unis, où que l'on regarde.
On reviendra à Obama, qui est à l'autre bout du spectre, tout à l'heure avec vous, Grille Marcus.
Mais vous aussi, Laird Hunt, vous revisitez...
Robert Johnson's there at the White House. Il ne faut pas oublier que Robert Johnson est à la Maison-Blanche pour voir Barack Obama. Hein.
Alors vous, dans votre roman Never Home, Laird Hunt, votre héroïne, Ash Thompson, elle n'aura pas l'occasion de voir la Maison-Blanche parce qu'elle s'arrête au faubourg de D.C., de Washington, D.C. Vous revisitez, vous aussi, le passé. Vous allez même plus loin que la période, l'époque à laquelle a vécu Robert Johnson, puisqu'on est au milieu du 19e siècle, pendant la Civil War, la guerre de sécession, avec votre héroïne qui, comme le racontait Grelle Marcus, se retrouve aussi choisie par une chanson. Il y a la ballade du galant Ash. Mais avant d'y revenir, peut-être qu'on parle un peu de vous. Est-ce qu'il y a une chanson de l'histoire du rock qui vous a choisi, qui vous appartient?
Ben c'est une très bonne question. En fait, moi, quand j'écrivais justement Never Home, j'écoutais Mississippi John Hurt, Led Belly, Robert Johnson et plein d'autres musiciens de l'époque, les femmes aussi, Bessie Smith et plein d'autres. D'autres chanteurs et chanteuses. Donc ça m'a tellement marqué pendant que j'écrivais ce livre que c'est vraiment formidable d'être ici en train de discuter cette musique avec
Il y a une chanson en particulier qui vous a percuté comme une balle de fusil Springfield?
Je ne sais pas. Pas forcément, pas une seule.
Vous citez une chanson Sorrow à la fin de votre livre dans les remerciements.
Ça, c'est une chanson de ma sœur qui était, dans une certaine manière, inspirée par ces chansons de la période. Mais c'est elle qui l'a écrite. C'est une chanson très très jolie, très belle.
Dans le livre de Grelle Marcus, on va aller donc jusqu'à Barack Obama, mais je voudrais quand même qu'on s'intéresse pour faire le voyage à Robert Johnson, parce que c'est vrai qu'avec lui, on peut faire l'histoire des États-Unis. Il y a dans la matrice Robert Johnson quelque chose d'indéniable. C'est l'artiste le plus influent du rock'n'roll. Vous le rappelez dans votre livre, que ce soit Les Crimes, Led Zeppelin, Rolling Stone, jusqu'à Cat Power en 2002 et donc Obama en 2012. Mais c'est aussi l'histoire des États-Unis, parce que c'est quelqu'un comme ça des années 30, complètement sans le sou, qui joue très bien de la guitare, puis qui en jouera très bien, c'est pour ça qu'on dirait qu'il a vendu son âme au diable, qui finira dans une publicité Toyota aussi, au bout d'un moment, dans les années 90. C'est ça aussi que raconte Robert Johnson sur les États-Unis.
That is the story of Robert Johnson.
Oui, c'est l'histoire de Robert Johnson et c'est l'histoire du capitalisme américain. C'est l'histoire de la banalisation commerciale de l'art. Et c'est l'histoire qui raconte comment, à mes yeux, l'art échappe à tous ceux qui essayent de l'emprisonner. Donc, il y a Crossroads, le morceau de Robert Johnson qui est utilisé comme thème pour décrire le croisement, le carrefour des valeurs de Toyota. On entend Clapton en arrière-fond, mais le morceau est également utilisé pour la bière Crossroads, qui est utilisée là, parce que vous avez donc la rencontre du bon goût et du faible nombre de calories dans une bière atroce qui s'appelle Crossroads. Et immédiatement, ça a été un flop commercial, ça. Mais bon, mais même mieux que cela, 20 ans plus tard, on se retrouve avec Hellhound on My Ale, encore une histoire de bière. Donc là, c'est une bière fabuleuse qui porte le nom d'un morceau de Robert Johnson, Hellhound on My Trail, et on y voit l'effigie de Robert Johnson sur la bouteille de bière, avec une description poétique formidable de Robert Johnson qui boit et il s'agit d'alcoolisme et tout ça. Et ça, ça m'a été envoyé, donc une grande, grande bouteille. Et donc je l'ai ouverte, je l'ai versée pour goûter la chose. Et quelques instants plus tard, je me suis versé un autre verre. Et la bouteille était vide. La bière était si goulayante qu'on ne savait même pas qu'on la buvait.
Mais vous êtes en train de faire de la publicité, Karl Marcus. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous êtes un lecteur de Guy Debord. D'ailleurs, il y avait une exposition à Paris à Pompidou. Il vous avait fait son commentaire sur votre livre, Le Monument Lipstick Traces, que tout grand fan de musique doit avoir dans sa bibliothèque. C'est une cathédrale, Lipstick Traces. Et on va dire que dans l'introduction de la Société du spectacle, il y a cette citation du philosophe allemand Feuerbach qui éclaire très bien notre époque et aussi une théorie que vous développez qui s'appelle le mélisme. J'aimerais qu'on y revienne. Donc cette citation, c'est « À notre époque qui préfère le signe à la chose signifiée, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'essence, la vérité est considérée comme profane et l'illusion seule est sacrée. » Le mélisme, dans votre livre, c'est cette façon que les interprètes qui s'emparent d'une chanson ont finalement de ne pas l'inquiéter et de la faire mentir, d'une certaine manière. C'est cette Amérique du faux que vous attrapez dans le mélisme des chansons.
We're talking about melisme.
Melisme. Oui. Le mélisme.
Is it emerges from gospel music.
Tout cela, c'est l'émanation du gospel. C'est une façon de montrer que ma voix ne m'appartient plus. Et les simples mots ne peuvent pas dire la vérité, ne peuvent pas exprimer ce que je veux dire. C'est parce que l'Esprit de Dieu a saisi ma voix et s'en est emparé. Et c'est Dieu qui parle par mon truchement. Et en perdant les mots, en tordant les notes, pour qu'un mot de deux syllabes se retrouve avec 20 syllabes de la façon dont on le prononce, eh bien, on arrive à ma façon de tenter de parler à Dieu pour que Dieu m'entende, pour que je m'affranchisse du langage ordinaire. Et lorsqu'on assiste à cela dans la musique gospel, eh bien, on est en extase, mais évidemment, on se perd soi-même. Lorsque cela est transposé dans de la musique, disons,
profane,
ordinaire, dans des chansons, à ce moment-là, il y a l'artifice qui transparaît. Et lorsque l'on commence en voulant dire quelque chose, on se retrouve avec une signification qui n'est pas celle qu'on voulait exprimer initialement. On ne fait qu'imiter un format qui vous dit, voici la représentation de quelqu'un qui veut dire ce que cette personne veut dire, mais ce n'est pas ça la vérité. Ouais. Donc, le signe de la vérité devient un mensonge. Et moi, j'entends cela, j'essaye d'écrire là-dessus en prenant pour exemple Beyoncé et sa musique habituelle. Puis, lorsque Beyoncé joue Etta James dans le film Cadillac, et tout cela disparaît, et elle devient chanteuse de soul. Et elle ne joue pas dans sa propre musique, dans son propre univers musical. Pas mal du pouvoir de Beyoncé vient de sa supériorité, car elle projette une supériorité personnelle dans les chansons qu'elle chante. Et lorsqu'elle doit incarner Etta James, tout cela disparaît. Et Beyoncé devient quelqu'un qui cherche un personnage et qui cherche la possibilité de chanter une chanson. Et Beyoncé devient moins que la chanson. Et c'est tout à fait tragique, c'est désespéré, c'est douloureux et c'est assez émouvant à voir, en fait.
Et aussi à écouter, puisqu'on l'a justement, ce passage d'Etta James à Beyoncé avec le mélisme au milieu. I heard
standing there with my man. I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart.
Etta James a 22 ans, elle a déjà une jolie carrière derrière elle. C'est une jeune adulte un petit peu ruinée quand même par les drogues et l'alcool au passage. Elle a tout ça dans sa voix lorsqu'elle chante Etta James pour le label Chess Records, qui fera donc l'objet de ce film Cardiac dont vous parliez, Creel Marcus. Et puis, juste avant, il y avait l'interprétation, la tentative de Beyoncé pour illustrer donc tout ce que vous nous avez expliqué sur ce passage d'une chanson à l'autre et cet artifice aussi au milieu.
I can tell you a wonderful story.
Je vous raconter une petite anecdote assez terrible d'ailleurs
about that song,
à propos
about
de ce morceau All I Could Do Was Cry,
which Etta James recorded.
Etta James l'a enregistré en 1960, je crois. Son premier album pour Chess Records à Chicago, c'était cela. Et dans son autobiographie, Etta James raconte l'histoire. Et cela, c'est au cœur de la façon dont j'interprète la musique et l'histoire de la musique. Il s'agit de fiction, d'histoire inventée que peuplent les musiciens. Ils jouent des rôles. Et dans son autobiographie, Etta James écrit la chose suivante. Moi, je joue le rôle d'une femme qui aime un homme, et cet homme va épouser une autre femme. Et elle, elle assiste à la cérémonie de mariage. Elle est obligée d'assister à la cérémonie. Et elle dit, c'est mon rôle. Je pensais maîtriser la chose en tant que comédienne. Et elle dit, j'ai chanté le morceau comme si c'était ma volonté de le chanter. Peut-être que je voulais dire cela, mais peut-être que c'était le cas, parce que ce que je ne savais pas, c'est que cette chanson avait été écrite à propos de moi et raconter l'histoire de ma propre vie. Et c'est un aspect de ma vie que je ne connaissais pas. La chanson a été écrite par Gwen Gordy, la sœur de Barry Gordy de Motown. À cette époque, Etta James était amoureuse de Harvey Fuqua, un chanteur. Mais Gwen Gordy était également amoureuse de la même façon. Et elle l'avait enlevé à Etta James. Et elle ne le savait pas. Et juste après la sortie de ce disque, elle a épousé Harvey Fuqua. Et Etta James n'a eu d'autre choix que d'assister à cela. Elle a entendu sa propre chanson devenir réalité.
Comme dirait une autre grande chanteuse, Candice Tatum, I'm a victim of the very song I sang.
Right.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui parfois, eh bien, aime à regarder ses invités parler. À suivre, eh bien, la sublime et terrible beauté de la guerre de sécession dans le dernier roman de Laird Hunt, Never Home, et toujours les étincelles rock de Greel Marcus.
Musique.
Today, French culture is American.
Vous savez qui est le plus grand groupe de rock au monde ? Eh bien, selon Jim Jarmusch, réalisateur entre autres du chef-d'œuvre Dead Man, ce seraient les Californiens de Sea of OCs. Je ne sais pas si je le dis très bien. The OCs. Ils se sont aussi appelés avant OCS ou alors OCs tout simplement, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans le marketing et autres questions de branding. Ils sont spontanés, ultra prolixes. Et si vous ne les connaissiez pas, voici trois bonnes raisons de rattraper votre retard avec ce nouvel album Weird Exits, sorti bizarre. Petit A parce qu'on admire profondément Jim Jarmusch et qu'on a envie de faire confiance avec quelqu'un qui a sublimé la musique de Neil Young en noir et blanc. Petit B parce que le groupe vient de San Francisco comme vous, Creel Marcus. C'est presque une raison suffisante aussi parce que leur leader est complètement fou. C'est quelqu'un qui fait de la guitare et qui lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est la tête pensante du groupe, John Dwyer. Et puis enfin, petit C parce que si j'en crois votre approche du rock, Creel Marcus, à savoir, c'est l'instant où l'œuvre d'art irradie, l'invention, le frisson électrisant de la découverte qui vaut la peine d'être guetté, eh bien je dirais à l'écoute de ces gelatinous cubes que nous avons le frisson. Garage, kraut, psyché et autres épithètes, en tout cas rock, si vous le voulez bien, The OCs, à l'instant, tout ou rien, la tension des extrêmes, vous les retrouverez en concert du côté de Toulouse le 13 septembre, à Paris le 14 et à Lille le 15, l'album A Weird Exit.
France Culture is an American radio station.
J'étais forte, lui pas. Ce fut donc moi qui partis au combat pour défendre la République. Je franchis la frontière, quittant l'Indiana pour l'Ohio. $20, 200 sandwichs au petit salé, accompagnés de biscuits, de corned beef, de 6 pommes flétries, de sous-vêtements propres et aussi d'une couverture. Il y avait de la chaleur dans l'air, donc je me mis en marche en bras de chemise, le chapeau bien enfoncé sur les yeux. Je n'étais pas la seule à chercher à m'engager. Et au bout d'un moment, nous étions toute une troupe. Les fermiers nous acclamaient au passage, nous donnaient à manger, leur meilleure place à l'ombre pour nous reposer. Ils jouaient pour nous de leur violon. Enfin, tout ce que vous avez entendu dire sur les commencements, même si un an déjà avait passé depuis Fort Sumter et que la première bataille de Bull Run avait eu lieu, que Shiloh avait emporté son lot d'âmes et que c'en était fini des commencements. Et pour de bon.
Les premières lignes de votre dernier roman, Laird Hunt. Le roman s'intitule Never Home. Il est publié chez Actes Sud. Vous avez eu le Grand Prix de la littérature américaine pour ce roman. Vous venez donc avec ce roman dans votre besace au Festival America qui se tient jusqu'à dimanche à Vincennes. Et il apparaît donc d'emblée que votre héroïne était forte et lui pas. Lui, c'est son mari Bartholomew qu'elle aime tant, qu'elle choisit de partir faire la guerre de sécession à sa place. Est-ce qu'on peut dire que ce roman a quelque chose d'une odyssée, mais où Ulysse serait en fait Pénélope?
Oui, c'est Pénélope qui va partir à la guerre et Ulysse qui va rester à la maison pour s'occuper des vaches et des champs et de leur vie en commun, en fait. Donc c'est justement Ulysse qui va attendre. Et c'était très important pour moi de revoir la guerre par cette optique d'Ulysse qui reste et Pénélope qui partit.
Mais précisément, si on parle justement de votre style, il y a une expression à un moment dans la bouche de votre héroïne, Ash Thompson, qui est que
Elle entend raconter la guerre, mais pas comme si c'était un poème, parce que les livres d'histoire écrits pendant la guerre de sécession racontent la guerre de tellement loin du point de vue des officiers qui boivent leur whisky et qui sont saufs, alors que tant d'hommes et de femmes sont dans la boue et sont transpercés par les balles. Vous, c'était votre ambition de raconter la guerre avec toute son effroyable beauté, mais pas comme un poème?
Ouais, pas comme un poème, parce que c'était pas un poème, c'était pas de la poésie. La guerre n'est jamais de la poésie, on le voit actuellement de nos jours. On est entouré par la guerre, le combat. Et pour moi, quand je parle du passé, c'est toujours pour parler du présent. Et ce livre, il me semble, parle du présent. Il y a les thèmes d'il y a 150 ans sont toujours avec nous aux États-Unis.
Racisme, droits des femmes, stress post-traumatique.
Tout est là-dedans. Et tout se retrouve dans la guerre de sécession. Donc, moi, au début, je n'ai pas commencé pour faire prononcer un grand discours sur l'actualité. Mais quand, après avoir commencé ce livre, je me suis dit, ouais, bon, te revoilà avec ces thèmes de l'actualité qui m'obsèdent, en fait.
Et avec une voix singulière qui est celle, à travers votre héroïne, fermière, de l'Amérique populaire. On est dans l'Amérique rurale, l'Amérique rustique, et il y a un fantasme aujourd'hui que cette Amérique blanche, des rednecks à la nuque rouge, pourrait reprendre de la voix et se faire entendre à nouveau. Vous avez aussi dealé, vous avez traité avec cette réalité, ce fantasme increvable de l'Amérique blanche et rurale.
En fait, moi, je connais pas... je connais bien, en fait, cette partie des États-Unis. Moi, je viens de l'Indiana. Moi, je connais bien ce pays de fermes et de fermiers et fermières. Et la réalité est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et en Indiana, il y a des gens tellement intelligents, qui peut-être se sont pas très bien informés, qui regardent 24 heures sur 24 heures Fox News, la chaîne de télévision de droite, et qui ont mal choisi, ou bien qui adorent leurs armes, je ne sais pas. Mais c'est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et donc, pour moi, donner la parole à quelqu'un qui vient de cette partie du pays, c'est une attestation des autres possibilités de cette partie de cet énorme pays. Parce que, après tout, les États-Unis, c'est très grand, c'est vaste. Et même dans les États où on vote peut-être pour... parce qu'Indiana a soutenu au début, c'était Obama. Et puis, 4 ans plus tard, on a changé. Mais quand même, il y avait ce moment. Donc, les gens existent qui, pour moi, ont de la raison dans cette question politique de notre moment.
Laird Hunt, c'est un livre que vous dédiez aux ordinaires, un petit peu aux Laird, aux Newberg, aux Hunt, parce que finalement, cette figure de l'Amérique ordinaire, c'est quelque chose qui m'intéressait moi aussi dans l'ouvrage de Grell Marcus, lorsqu'on s'arrête sur Buddy Holly. On dit qu'on a une image du rock'n'roll comme ça, comme un truc complètement diabolique, dégingandé, il faut avoir une attitude spéciale. Buddy Holly, c'est quelqu'un, vous dites, qui va prouver qu'on peut être ordinaire et avoir un destin rock'n'roll. Pourquoi vous avez souhaité donc mettre cette figure ordinaire au sein de cette histoire?
Well, it's because I've been fascinated by Buddy Holly. Long before
moi, je suis fasciné par Buddy Holly.
Buddy Holly was.
Et ma fascination date d'avant ma connaissance véritable de son identité. Lorsque j'ai entendu Maybe Baby ou That'll Be the Day, lorsque j'ai entendu ça à la radio dans les années 50, à la fin des années 50, eh bien, j'ai été épris par ces chansons. Voilà un type qui semble ordinaire et qui exprime ce qui semble être des émotions ordinaires dans des situations de tous les jours. Et cependant, c'était des morceaux pleins de vie, pleins de désirs, à telle enseigne que ces morceaux semblaient dire, et moi je ne connaissais pas son aspect physique, du reste, peu importe ses origines, je ne savais rien sur lui, mais j'ai entendu une personne chanter dans ses albums, et le message c'était, tout le monde peut avoir autant d'émotions que Hamlet, tout le monde peut avoir autant d'émotions que le roi Lear, tout le monde peut exprimer ses émotions dans un morceau tout simple. C'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu Bodioli pour la première fois. Je n'ai pas conceptualisé les choses de la sorte à ce moment-là, évidemment, mais ultérieurement, c'est ainsi que j'ai formé ma perception. Et je me suis dit, ben voilà une histoire merveilleuse. On peut être type banal et on peut néanmoins être un immortel en même temps. Moi, j'imagine Buddy Holly comme étant un petit gars un peu maigrelet, celui qui on claque la porte au nez au lycée, vous voyez. En fait, Buddy Holly, c'était un type qui était grand, 1m85, costaud du Texas. Et c'était vraisemblablement lui qui était le gros dur au lycée et qui claquait la porte dans la gueule des autres. Mais il chantait comme un type qu'on croise dans la rue. Il y a une photo formidable qui a été prise en 1957 à Lubbock, dans le Texas, donc la ville d'origine de Buddy Holly. Elvis Presley arrive donc à Lubbock et il y a là une salle pleine de gens et au centre il y a Elvis Presley. Elvis Presley en figure de Dieu avec cette aura formidable que l'on voit dans cette photo. Il prend tout l'espace psychique de la salle. Et dans la salle, il y a plein de gens pourtant. Il y a plein de filles, il y a plein de garçons aussi. Et tout au bord de la photo, regardant de l'extérieur, il y a un type, un binocle. Et bien c'est Buddy Holly. Et c'est le type qui ose à peine entrer, vous voyez. Peut-être que je peux regarder dans la salle. Donc c'est le type qui est à l'extérieur et qui regarde donc cette grosse fortune à laquelle il n'accédera jamais. Mais il peut chanter son désir d'accéder à la fortune.
C'est le rêve américain un peu.
Voilà, et c'est la définition que vous donnez, Grell Marcus, du rock'n'roll. Une des définitions, quand vous dites que la seule chose que le rock n'empruntait pas à la musique country et au blues, c'est un sentiment d'impunité. Est-ce qu'on peut dire à cet égard, Laird Hunt, que bien que votre héroïne, Ash Thompson, qui a endossé donc le soldat, l'uniforme du soldat de l'armée du Nord pour se battre contre le Sud dans Never Home, bien qu'on soit à l'époque de la musique country, elle aussi est animée par ce sentiment d'impunité. Est-ce qu'elle a quelque chose de rock'n'roll dans ce sens-là, votre héroïne?
Bien sûr, quand j'envisage le film, en fait, c'est le rock'n'roll qui me vient tout de suite à l'esprit, pour le soundtrack, en fait, je veux dire. Parce que oui, c'est vraiment quelqu'un qui dégage cette force, cette férocité, en fait. Et quand je pense à ces vies qu'on dirait comme peut-être Pierre Michaud, minuscules... C'est en fait des vies majuscules, pleines de force, pleines de passion, pleines de puissance. Et c'est ça ce que je veux découvrir quand j'écris ces romans, ou bien redécouvrir. Parce que pour moi, c'est une vérité. Il n'y a pas de vie minuscule. Ce sont des vies essentielles, en fait, et majuscules.
Et elle devient majuscule grâce à vous, par le récit, par la littérature. Et elle devient majuscule dans votre récit aussi, votre héroïne, parce qu'elle devient le sujet d'une ballade. La ballade du galant H. Alors venons-y, puisqu'on est avec Grell Marcus, critique rock et amateur aussi, je crois, de ballades côté country comme ça, parce que je connais pas bien toute la proto-histoire de la musique américaine. Vous pourriez nous la chanter ou du moins nous la dire, cette ballade?
Il y a
qu'un petit
morceau dans le livre.
Justement, on rêve de la voir se déployer.
Galant H went up a tree, took a pretty girl along. C'est tout, en fait. C'est ça ce qui existe dans le livre. Mais c'est vrai que c'est elle qui devient héros de cette chanson. Et elle va devenir une légende, en fait, pour les autres soldats. Parce qu'elle fait quelque chose de galant un jour sur le chemin. Et donc, on commence à chanter. Et c'est dans la chanson qu'elle vit une vie qui n'est pas la sienne, en fait. Mais c'est tout de même, c'est quelque chose qu'elle va apporter avec elle pendant tout son parcours, ce côté légendaire.
Et on la prend pour un homme, alors que les femmes soldats ont une importance dans les ballades américaines, Grell Marcus.
Oui, c'est vrai, il y a une ancienne tradition de ballade. Ça remonte aux ballades britanniques et françaises. Mais ça revêt une forme très particulière. Au moment de la guerre de sécession, il s'agit donc de femmes qui partaient à la guerre déguisées en hommes. Elles n'avaient pas peur de voir 10 000 victimes s'effondrer. Et cela, c'est au cœur de cette notion qui décrit de nombreux aspects. Dans cette guerre, il y avait tout le monde qui était impliqué. Les gens se battaient, qu'ils aient eu un uniforme ou non. Et les femmes qui sont marginalisées peuvent saisir l'histoire, même si elles doivent être déguisées pour y parvenir.
Tout à l'heure, nous écoutions Etta James, dont vous dites, quand elle chante à 22 ans, qu'elle pourrait en avoir 62 ou avoir une douzaine de vies derrière elle, tellement c'est intense. C'est intéressant ce que dit la voix aussi pour un auteur de littérature, la voix d'une femme. Et j'ai envie de vous demander, Laird Hunt, pourquoi vous étiez déjà dans la voix des femmes avec Les Bonnes Gens. Là, à nouveau, vous êtes une voix d'héroïne féminine. Vous faites votre Madame Bovary à vous. Pourquoi vous voulez donc nous écrire en voix de femme?
En fait, pour moi, c'est le grand sujet de nos jours, en fait. On a pas mal parlé des hommes, il me semble. On a pas mal d'histoires qui parlent des hommes. Et pourquoi pas maintenant parler des femmes? Et donc, il y a ce côté un peu politique, pour moi, c'est très important. En même temps, je pense à ma grand-mère qui m'a élevé dans une ferme en Indiana, qui était toute petite, mais puissante, volcane humaine, en fait. Et elle est toujours là, à côté de moi, et elle me chuchote, mais avec de la force dans l'oreille, quand j'écris. Il faut écrire encore un livre sur les femmes, mon fils. Et j'écoute, et je le fais. Très important pour moi.
Around, interprété par les Français, même par les Normands, on parlait de Flaubert, de King Biscuit, qui seront en concert dimanche dans le cadre de Jazz à la Villette à la Philharmonie, un groupe qui revisite le travail d'Alan Lomax et de son père John, qui sont ces grands folkloristes américains qui ont collectionné la musique de l'Amérique, comme vous collectionnez toute cette mémoire de la guerre de sécession, sous tous ses aspects, la question du paysage, la question justement de la musique aussi, on en parlait avec vous, Laird Hunt, dans votre roman Never Home. Mais au fond, on avait ouvert l'émission avec la question du contrôle et du déchaînement des armes à feu aux États-Unis. Est-ce que, à votre façon, peut-être une fois de plus, vous n'avez pas écrit une histoire de la violence, History of Violence, la violence raciale, la violence militaire, mais aussi la violence psychiatrique aux États-Unis au 19e siècle?
Ouais, il faut toujours revisiter ces sujets qui sont si à point en ce moment.
Et pourquoi est-ce qu'ils sortent de vous? Je crois que c'est Bukowski qui disait il faut écrire ce qui sort de vous comme une roquette, comme un missile.
Moi, j'étais jeune garçon dans une ferme en Indiana et j'avais un fusil. Et pour moi, je trouve ça assez normal dans une ferme quand il y a des petites bêtes à tirer dessus, qui mangent le jardin de
votre grand-mère.
Oui, il faut agir tout de suite. Mais c'est tout à fait autre chose que de se promener, de se balader dans la rue avec un fusil en main. Ça, c'est autre chose. Mais s'il y a un contexte, je suis pour. Mais n'y a pas de contexte pour ce qui se passe chez nous aux États-Unis, il me semble. Et donc, quand j'écris sur la guerre de sécession, où c'est tellement meurtrière, c'est encore pour mettre en valeur ce qui se passe dans le monde entier de nos jours, mais aussi aux États-Unis, où on tire sur les autres gens, sur les autres êtres humains, tous les jours, presque 24 heures sur 24 heures, il me semble.
Grail Marcus, dans cette histoire du rock, dans ces 10 titres qui font le rock'n'roll, il n'y a pas que de la musique américaine. Mais qu'est-ce qui, selon vous, puisque vous faites des allers-retours entre donc les années 30, les années 50, les années 60, on part en 2010, qu'est-ce qui, selon vous, illustre dans la musique, justement, cette persistance de la violence, notamment sur deux points, la ségrégation, on va dire, entre autres, et les armes?
Wow, I don't know.
Ah tiens. Je ne sais pas trop.
What the persistence of violence,
la persistence de la violence dans la musique.
I don't know, I'd have to think about
it. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à ça, j'ai jamais pensé.
Mais vous, en amateur de musique rock, vous avez besoin du frisson, de la violence sublimée du rock'n'roll, qui est brutale, qui sait être crue, qui sait être douloureuse aussi parfois pour les oreilles.
Est-ce qu'on parle de violence, la violence qui consiste à faire du mal à l'autre ou à tuer l'autre, ou parlons-nous de la violence des émotions?
That's a different story.
Ah, c'est pas pareil, évidemment.
And I do write about that.
Et moi, je traite ce sujet de façon répétée. Le rock'n'roll touche du doigt cela et exige ce sujet. Il y a des morceaux qui est Transmission de Joy Division. Et dans ce morceau de Joy Division, on entend une personne qui s'effondre, une personne frappée par la fausseté du monde et toutes les valeurs qui lui ont été inculquées s'effondrent. Et cette personne essaye d'exprimer ces valeurs auxquelles il est censé croire, et à mesure qu'il le fait, les mots se délitent et la personnalité s'effondre, tout se craquelle. Et tout cela, on l'entend dans le morceau de Joy Division, et ça crée une espèce de théâtralité où on se rend compte qu'il n'y a pas de certitude. On ne peut compter sur rien, tout est en péril. Eh bien, si ça, c'est pas de la violence, eh bien, je dirais que l'art a toujours essayé de mettre le doigt là-dessus. On monte aux Grecs et même au-delà. Si rien de tout cela n'était vrai, voilà la question. Et bien entendu, ce qui ressort de tout ça, c'est l'art dont Melville a dit, eh bien, c'est lié au tonnerre. Ce que disait Melville de Hawthorne. Il faut savoir, il faut essayer de saisir le savoir dans le tonnerre. C'est ce qu'il disait de Hawthorne. Donc, si on ne peut faire confiance à rien, il y a cette forme artistique à laquelle on réagit tous. Et on se dit, mais voilà, c'est ça la vérité. Eh bien là, il y a le mensonge qu'on vous a inculqué d'autre part et la vérité que vous voulez raconter. Et que nous, auditeurs du rock, entendons. Et ça, c'est un petit peu comme une explosion atomique du point de vue de la libération émotionnelle que cela génère.
L'histoire de la violence émotionnelle comme un ingrédient essentiel du rock'n'roll. Grail Marcus, Laird Hunt, vous restez avec nous, mais toute cette journée, nous sommes en Amérique, donc sur France Culture. On interroge l'Amérique d'aujourd'hui, ce qui la traverse, ce qui la trouble et ce qui la hante, notamment avec les chroniques américaines de la romancière Catherine Cusset. Aujourd'hui, les Black Lives Matter.
Eric Garner, 43 ans, vendeur de cigarettes à la sauvette. Étouffé par un policier le 17 juillet 2014, tandis que 5 autres le maintenaient, est mort sur le trottoir. Son assassin, Daniel Pantaleo, n'a pas été inculpé. Eric Garner, je pense à toi. Michael Brown, 18 ans, poursuivi pour avoir volé une boîte de cigares à Ferguson, Missouri, le 9 août 2014, et tué de 12 balles par le policier à qui il faisait face, alors qu'il n'était pas armé. Son assassin, Darren Wilson, n'a pas été inculpé. Michael Brown, je pense à toi. Ezel Ford, 25 ans, atteint de troubles bipolaires, tué d'une balle dans le dos le 11 août 2014, dans une contre-allée à Los Angeles, par un policier le soupçonnant de vendre de la drogue. Ces assassins, Vampler et Villegas, n'ont pas été inculpés. Ezelford, je pense à toi. Tamir Rice, 12 ans, tué d'une balle par un policier dans un parc de Cleveland, Ohio, le 22 novembre 2014, parce qu'il jouait avec un faux pistolet. Son assassin, Timothy Lehman, n'a pas été inculpé. Tamir Rice, je pleure pour toi. Walter Scott, 50 ans, tué de 6 balles dans le dos à North Charleston, Caroline du Sud, alors qu'il essayait d'échapper au pistolet Taser du policier qui l'interpellait pour une lumière de frein manquante. Son assassin, Michael Slager, a été inculpé seulement parce qu'une vidéo filmée par un témoin a démasqué ses mensonges. Walter Scott, je pense à toi. Freddie Gray, 25 ans, mort de blessure à la moelle épinière le 19 août 2015 à Baltimore dans un fourgon de police après son arrestation pour possession illégale d'un couteau avec lame éjectable. Ses assassins ont été acquittés. Freddie Gray, je pense à toi. Alton Sterling, 37 ans, vendeur de CD, tué de plusieurs balles dans le ventre le 5 juillet 2016 à Baton Rouge, Louisiane, alors qu'il était immobilisé par deux officiers à califourchon sur lui qui le soupçonnaient d'avoir une arme. Alton Sterling, je pense à toi.
En forme de mémorial, Black Lives Matter, une des chroniques américaines de Catherine Cusset, c'est notre fil rouge donc en cette journée spéciale sur France Culture. Catherine Cusset qui fait paraître en cette rentrée l'autre qu'on adorait chez Gallimard. Vous trouvez l'intégralité des chroniques sur franceculture, bien sûr, .fr.
Laird Hunt, vous, dans votre roman Never Home, qui, je le rappelle, donc se déroule pendant la guerre de sécession, vous faites rencontrer à votre héroïne, Ash Thompson, femme blanche qui a endossé l'uniforme pour se battre, une femme de couleur, comme il est traduit dans la version française et dans le politiquement correct du langage américain, donc une femme noire, et elle semble signifier, cette femme noire que rencontre votre héroïne, que ce soit, je sais pas, vous allez me dire ce qu'il faut en penser, c'est pas une question de morale, mais que les blancs et les noirs n'ont définitivement pas la même histoire.
Ça, c'est vrai. Mais en même temps, on partage cette histoire.
L'histoire, ça semble impossible dans le roman.
Ah oui. Oui, c'est une impossibilité, mais qui est au centre de l'histoire américaine. On partage le chemin, mais on ne peut pas marcher ensemble sur ce chemin de l'histoire américaine, me semble-t-il. C'est au centre, pour moi, de ce livre, en fait, cette rencontre sur la rue de ces deux femmes qui ont fait la même chose, dans une certaine manière, mais pour des raisons tout à fait différentes. On connaît un peu les raisons de Ash Thompson, parce que c'est son histoire à elle, mais on ne connaît pas les raisons de l'autre. Et Ash pense que peut-être parce qu'on a quand même fait la même chose, on a fait cette chose, on s'est déguisé en homme pour aller faire la guerre. On pourrait partager le chemin pendant quelque temps. Mais l'autre dit non, on ne peut pas partager ce chemin. On ne va pas marcher ensemble sur cette route. Et pour moi, c'est un peu ce paradoxe au centre de notre histoire américaine. C'est une histoire partagée, mais on ne peut pas partager le chemin. Parce qu'on a des parcours différents, tellement différents. Et on voit ça de nos jours. Et c'est le grand sujet de notre actualité aux États-Unis.
C'est pour ça que vous écrivez en tant que femme, pour essayer justement de mêler les chemins.
Oui, voilà.
Un dernier mot avec vous, Grail Marcus, justement, puisqu'on parle de messages et de routes qu'il faudrait entreprendre ensemble. Il y a beaucoup de gens qui sont convoqués dans votre livre, hein, les 10 chansons qui ont fait l'histoire du rock en 10 chansons, des critiques, mais aussi des guitaristes comme Robert Ray qui dit qu'est-ce qui est intéressant dans le rock'n'roll, c'est qu'il a de foncièrement révolutionnaire ce produit au niveau du son. Tutti Frutti est bien plus révolutionnaire que le Woman is the Nigger of the World. Et finalement, c'est plus le son de la voix de Bob Dylan qui transforme le monde et la perception qu'on a du monde que ce qu'il dit. Quelle est justement cette théorie sonore qui va un peu à l'encontre de l'histoire qu'on connaît de la protest song?
What Robert Ray is saying, Robert Ray is both a historian,
est historien, critique, musicien, guitariste. Il écrit des paroles, il chante. Et il nous dit que Lorsque les gens ont entendu la voix de Bob Dylan pour la première fois, ils se sont dit « c'est quoi ça ?» Et qu'ils l'aient exprimé ou qu'ils se le soient dit, on s'est dit « pourquoi est-ce qu'on entend ce type de voix, la voix d'Azir de Bob Dylan en public ?» Parce que moi, je ne suis pas habitué à entendre cette voix si peu musicale. Ce n'est pas correct, ce n'est pas du tout légitime d'entendre une voix comme ça. Ou alors, au contraire, peut-être que c'est une bonne voix légitime. Peut-être que ce qui est légitime, ce à quoi nous devrions être exposés, c'est bien au-delà de ce que je pensais. C'est ça que nous dit Robert Ray. Et tout au long de mon livre, j'essaye de traiter le son, la notion du son, la façon dont une ambiance créée par des musiciens et un chanteur exprime plus de choses que tout message ou description que l'on pourrait trouver dans des mots.
Ping-pong. It's already finished.
Merci beaucoup à tous deux, Laird Hunt, Graeme Marcus. Vous êtes tous les deux participants du grand festival America qui se tient à Vincennes, donc jusqu'à dimanche, avec de très nombreuses rencontres autour du thème l'Amérique dans tous ses états. Laird Hunt, vous avez donc publié Never Home, Grand Prix de la littérature américaine, publié en France chez Actes Sud. Quant à vous, Graeme Marcus, vous êtes l'auteur de l'histoire du rock en 10 chansons chez Galad Édition.
Et j'ajoute que Imagine American Music avec Graeme Marcus et Rona Rittner, ce sera une conférence à la Fondation Cartier le 12 septembre prochain. Le ping-pong est une chanson radiophonique que l'on compose en équipe et qu'elle équipe avec à la rédaction Aïssat Wendoy, Jeanne Aléos, Seam Boutata et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, et à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny et Anthony Thomasson.
Quant à lundi, eh bien, nous vous retrouvons avec Julien Gosselin pour son adaptation théâtrale monumentale de 2666 de Roberto Bolaño et avec l'écrivain Pierre Bergugnou.